Et voilà.
Je préviens de la famille.
Donc on est le 27.
Ouais.
Et vous êtes Monsieur Luc, c'est ça?
Oui.
Voilà. Alors, donc vous avez déjà parlé à Dominique, elle vous a dit.
Non, Dominique, non.
Demain.
Non, elle me fuit.
Demain, elle vous fuit.
Oui.
Ce soir.
Elle vous fuit. Donc j'ai réécouté vos histoires avec beaucoup d'intérêt la dernière fois.
Ah.
Elles sont, je vous les ferai, ou je demanderai à Dominique de vous les faire écouter un jour, parce qu'elles sont d'excellente qualité. Alors, très bien, c'était très intéressant.
Mais c'est des souvenirs plus ou moins d'enfance, des souvenirs comme ça, quoi. Des parents, des grands-parents, des amis, des gens que j'ai connus. C'est ça, quoi.
Et bon, je vais peut-être vous poser des questions plus personnelles.
Oui.
Vous pouvez me dire votre âge ?
72 dans quelques mois.
Dans quelques mois.
Oui.
Et vous êtes né à Douzaine ?
Je suis né à Douzaine.
Vos parents, mes parents, un petit peu d'eux ?
Mes parents habitaient ici, c'est-à-dire mon père était originaire de Gueviva et ma mère était originaire de Douzaine. Ils se sont mariés et ils sont venus habiter à Douzaine. Ils ont acheté la maison qui est à côté de la mienne, et puis de là on a toujours conservé la propriété à Gueviva. Ça fait que on a toujours été plus ou moins de Gueviva, plus ou moins de Douzaine, compte tenu que mon père était de là-bas et que ma mère était d'ici. Et quand on s'est partagé avec mes soeurs, moi j'ai gardé Gueviva parce que j'avais déjà acheté un noyau à la Safer. Et bon, mes soeurs n'étant pas là, habitant Clermont-Ferrand, j'ai eu le choix de. On avait fait de l'eau et un mixte, j'ai eu le choix de choisir le lot que je voulais. Ça fait que, à 12 ans, je n'ai que la maison, et j'habite, je travaille à Aigues-Vives, qui est à 9 km d'ici. C'est pour ça qu'il faut qu'à 2 heures, je sois là-bas.
Qu'est-ce que vous faites,
on vend des pommes. J'étais viticulteur au départ, avec mon père. Après, j'ai fait du courtage en blé. Bon, là, je me suis fait avoir. J'ai abandonné et puis j'ai vendu après quelques produits agricoles et puis je suis revenu à la vigne parce qu'on nous avait donné les primes d'arrachage, tout ça, et j'ai tout arraché et je me suis reconverti en pommier encore une autre fois. J'ai eu 3 reconversions dans sa vie. Vous savez qu'il faut en avoir 3 dans sa vie de reconversion. Ça, vous ne le savez pas. Il faut 3 fois changer de métier dans sa vie.
C'est qui dit ça?
Les jésuites.
Les jésuites?
Oui, monsieur.
Vous avez eu une formation jésuite?
J'ai été à l'école chez les jésuites, au Causou à Toulouse. Ouais. Vous connaissez? Oui.
Oui.
J'ai passé 4 ans là-bas. Et puis je suis venu à Carcassonne, et puis à 17 ans, j'ai arrêté.
Vous êtes arrêté à quel niveau alors?
Quatrième. Non, 16 ans, 17 ans, j'avais 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas. J'ai arrêté à
vous ne regrettez temps. Pas de ne pas avoir continué vos études?
Oui et non, parce qu'à ce moment-là, bon. Il y avait des possibilités, puis moi j'ai voulu rester à la propriété, bon, j'ai joué au rugby, tout ça, bon, je suis rentré dans un autre monde, quoi. Ouais. Mais non, ça m'a pas, ni même aujourd'hui, bon, je le regrette pas tellement, compte tenu de mon parcours. Enfin, ce que je pense, c'est que les expériences que j'ai eues dans ma vie, elles m'ont toujours été profitables, quoi, parce qu'on fait un truc, bon, ça apprend des choses, Et chez les jeunes agriculteurs, moi j'ai milité aux jeunes agriculteurs quand j'étais jeune. On avait été à l'IFOCAP à Paris, qui est la station de formation des cadres agricoles. Et il nous disait que dans sa vie, il fallait changer trois fois de boulot ou de métier, quoi. Il ne fallait pas toujours rester sur le même pôle. Et effectivement, bon, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont servi. Je vends des pommes aujourd'hui, bon, j'ai fait de la vente, bon, on sait comment aborder, j'ai fait des stages de vente, vous voyez, tout ça se retrouve après. Tout ce que j'ai pu faire m'a quand même apporté beaucoup de choses, voilà. Mais après, bon, les études, bon, j'ai pas de regrets, pas rien à voir, non. Qu'est-ce que j'aurais fait, j'en sais rien. J'aurais continué, peut-être, c'est possible. Mais j'ai préféré rester à la propriété à l'époque. Ça tournait pas trop mal en propriété.
Vous avez gagné votre vie rapidement aussi, ce qui est bien quand on est jeune. C'est ça,
aussi,
motivé aussi.
Aussi, oui. Bien que à ce moment-là, on était sous la coupole des parents, on avait quelques sous le samedi et pas plus.
Oui.
Non, on n'avait pas des 5 et des 1000, on ne payait pas un salaire. Non. D'ailleurs, j'ai demandé quand on s'est partagé un salaire différé. C'est-à-dire que moi, de 17 ans jusqu'à 20, 26, 27 ans, j'ai passé 10 ans à travailler la propriété pour le bien de la communauté. Mmh. Mais ce n'étant pas là, c'est quand même moi qui ai fait fructifier la communauté. Mmh. Et j'ai demandé un salaire différé.
Et ils l'ont accepté.
Ah, obligé. À ça, j'étais là, là, j'étais intraitable. Sur le reste, bon, on s'est mis d'accord, on a tout ça, c'est toujours bien passé. Bon, mon père, d'ailleurs, avant de mourir, nous a dit, je veux absolument pas que vous vous disputiez quoi que ce soit, je veux toujours que vous soyez unis. Mmh. C'est un truc... Et on a toujours respecté ses dernières volontés.
Il a eu le temps de vous en parler. Donc
avant... Mon père a eu une mort extraordinaire.
Ah oui?
Ouais. Mon père avait un cancer. Bon. Alors, il avait mal au rein. Il avait mal au rein. Ma mère, de suite, au mois de mai-juin, l'amène à Carcassonne. Et on lui fait des analyses, on fait des radios, des reins, tout ça. Rien. Et un jour, moi, je m'y trouve à 5 heures, j'étais allé le voir, et le chirurgien arrive, il lui dit, demain matin, je vous enlève, il lui presse sur le ventre l'endroit de l'appendicite. Évidemment, mon père a crié, parce que ça lui faisait mal, quand je l'ai vu faire, moi, il appuyait comme une bête dessus, mon père, ah, vous me faites mal, il lui dit, bon, mais demain matin, je vous opère de l'appendicite. Bon, moi, je dis, mon père, il n'a pas l'appendicite, je descends ici à Capanduche chez le docteur. Et je lui dis, il n'est pas question qu'on opère mon père de l'appendicite demain matin. Mais il m'a dit, il n'a pas l'appendicite, votre père. Il veut, monsieur, me l'opérer demain matin de l'appendicite. Je vous interdis, il ne faut pas qu'il l'opère de l'appendicite. Il ne l'a pas opéré. Mmh. Alors il est rentré. Alors il avait, avant d'y aller, il avait 32, 33 tous les jours. Quand il avait quelque chose, bon. Il est rentré. Et en principe, il allait passer l'hiver chez mes soeurs. Et en septembre, on a fait les vendanges. Il venait, il coupait 4 raisins debout, 4 raisins debout, 4 raisins debout. Mon père était un peu comme moi, il a travaillé toute sa vie, même dans ses derniers jours, il travaillait. Il avait à peu près mon âge. Et alors, malheureux. Et alors, il part à Clermont-Ferrand en novembre, passé l'hiver. Je dis à ma soeur, fais-le voir là-haut, parce que c'est pas possible, papa, quelque chose, c'est pas normal qu'il travaille pas. Non pas que ce soit une nécessité pour moi ou pour tous, mais j'ai dit, lui, du moment où il ne travaillera plus, il aura des difficultés terribles et ce sera la fin pour lui. Mmh. Effectivement, elle l'a fait voir, il a dit, il a un cancer de la prostate, mais déjà, c'était bien, bien avancé. Mmh. Et il est mort après au mois d'août. Alors, avant de mourir, bon, à la fin, il restait alité. Et ma sœur était venue passer le mois d'août parce que son état se dégradait. On pensait que bon, mon beau-frère était notaire, tout ça. Puis j'avais un autre beau-frère qui était chef de la comptabilité aux économes du centre. Ils avaient pris le mois d'août pensant que bon, tout allait se passer à ce moment-là. Mm-hmm. Et le 28 ou 29 août, là, fin de mois, ma sœur me dit, pauvre, il va pas plus mal, on s'en va. J'ai dit, écoute, quand même, c'était un samedi ça, quand même, fais passer le docteur, tu seras plus rassuré, tu partiras plus tranquille. Mm-hmm. Le docteur arrive, bon, bonjour, on discute, tout ça d'un côté de l'autre. Et puis il prend l'attention. Et il nous dit c'est la fin. Mais j'ai dit, vous rigolez ou quoi? Ouais, il m'a dit c'est la fin. Et alors, il m'a dit, il va faire un œdème du poumon, c'est très dur à supporter. Et je vais le piquer. Alors il lui dit, qu'est-ce que vous me faites, docteur? Oh, je vous fais une piqûre pour que vous uriniez. Il a fait une piqûre. Il nous a réunis toute la famille autour du lit.
Il a compris.
Toute la famille autour du lit. Mes enfants qui avaient 6 ans, 7 ans, tout le monde, toute la famille, il nous a fait ses dernières recommandations et quand il a eu fini, pouf, il est parti. C'est un truc extraordinaire, ça. Mmh.
Et il était religieux ou même pas?
Mon père, oui.
Oui, religieux.
Religieux, oui, bon, si vous voulez, bon, il n'allait pas à la messe tous les dimanches. Quoique si, il allait quand même assez souvent à la messe. Bon, c'était quand même quelqu'un de très croyant, quoi, oui. Ma mère, oui. Et ma grand-mère aussi. Mais bon, pas un pratiquant.
Mais ça l'a aidé, c'est simplement plutôt qu'il n'avait pas peur de la mort et que...
Non, mais je vous dis, alors là, moi, je veux pas que vous disputiez entre vous, qu'il n'y ait jamais d'embrouille, tout ça, entre vous, etc., etc. Et puis alors, quand il a eu fini, clac. Maintenant, j'avais mon neveu là, qui était pharmacien, et il a regardé la piqûre qu'il y avait fait. Je crois qu'il a fait une dernière piqûre. L'ampoule qu'il lui avait donnée, c'était un truc pour lui arrêter sa vie, quoi, je crois. Il l'avait fait, quoi, parce qu'il avait compris qu'il allait souffrir énormément. Il ne nous l'a pas dit, le docteur, mais mon neveu, qui était pharmacien, enfin, qui faisait ses études de pharmacie, a pris l'ampoule et il s'est aperçu que c'était un truc...
Une dose très forte.
Une dose pour abréger ses souffrances, quoi. Mais de sentir que tout le monde. Alors, c'était. J'avais tout le monde autour du lit. Bon, ses deux beaux-fils, bon, mes deux sœurs et moi mes enfants et tous les petits-enfants. Ça a duré 20 secondes.
À 20 secondes ?
Ouais, il a parlé, il nous a dit ce qu'il avait à nous dire, il nous a fait des recommandations et tout, lucide comme c'est pas possible. Et puis, comme moi, je vous parle maintenant, et puis, clac, il s'est éteint. Pouf, un souffle terminé. Ça, j'ai vu ma grand-mère mourir. Même pas, parce que on était descendu manger, et on avait laissé une cousine en haut, dans la chambre, là-haut, elle nous a dit, venez, ça y est, c'est la fin. Elle avait 92 ans, ma grand-mère. Bon, je lui avais amené mes enfants, dans l'après-midi, et alors elle les a embrassés, elle leur a dit, t'embrassi, parce qu'elle parlait énormément pas toi, t'embrassi qui te birei pas mai, je t'embrasse que je ne vais plus te revoir. Elle les a embrassés, là, je lui ai mis sur le lit, elle les a embrassés, tout, et puis elle est morte après. À 8h du soir, nous, on était en train de manger en bas, et une cousine était restée là-haut pour la veiller, et nous a dit, venez, ça y est, elle est morte. Bon, ouais. Voilà. L'histoire un peu de la famille.
Ouais.
Et là, j'ai deux fils maintenant,
ouais.
Dont un est marié, qui est pédicure, et le second, il me remplace sur l'exploitation. Quoi.
Ouais.
Il a fait un doc de sciences économiques à Toulouse, il n'a pas voulu continuer. Il est allé faire son service. Moi, je lui dis, ne reste pas, ne va pas en Arbonne, faire ton service. Fou le camp Outre-mer, Nouvelle-Calédonie, à l'époque de Machorou.
Ah.
Oh, alors il a fait le service long à ce moment-là, il a fait 6 mois à Perpignan et un an Nouvelle-Calédonie. Et quand il est rentré, et celui que je pensais qu'il resterait, Bernard, lui, a fait pédicurie. Là aussi, c'est une histoire à raconter parce que c'est un truc extraordinaire.
Oui.
Alors Philippe, lui, il a voulu rester avec moi, il a passé le concours d'inspecteur de police, il l'a loupé parce qu'il arrivait un an sous les cocotiers là-bas, et il l'a loupé, alors il m'a dit je vais rester avec toi. Bon, je l'ai gardé parce que j'ai dit moi pour aller gagner 8000 balles lui à Paris, autant qu'il reste avec toi ici. Il va à la chasse, il se regarde dans la nature, bon, et j'espère qu'un jour il gagnera sa vie. Aujourd'hui c'est pas terrible parce qu'on est en pleine restructuration. Mais enfin, je pense qu'il est mieux là que d'être inspecteur de police. Et le second, ça a été, il avait pas de Philippe avait beaucoup de possibilités, Bernard n'en avait pas, il a loupé le bac, et il m'a dit, je reste avec toi. Je lui ai dit, non, tu vas repasser le bac, on va te mettre dans un lycée, tu vas repasser le bac. Il a eu le bac, et ça a été sa révélation. Il a eu le bac. Alors ma femme lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Et lui, il lui dit, je sais pas. Ma femme lui dit, tu vas faire pédicure. Qu'est-ce que c'est? C'est fou, ça. Tu vas faire pédicure, qu'est-ce que c'est? Alors bon, on avait un ami qui tournait bien à Lézignan, là, que ma femme connaissait bien, et on a passé les concours de pédicurie, Montpellier, Lyon, Toulouse, Clermont-Ferrand, Paris. Il a été reçu à Paris, il a été reçu à Lyon, il a été reçu à Toulouse. Enfin, à Lyon, il a été reçu Radiola, et à Paris, il a été reçu en pédicurie à Toulouse. Et on a eu une chance extraordinaire, en plus, c'est que l'école de Toulouse, qui t'a pris pas, est gratuite. Et alors il a fait 2 ans de pédicurie, il est sorti, pendant qu'il était là, ma femme avait branché le pédicure de Lézignan, qui était un gars qui était arrivé, qui avait monté un gros cabinet qui ne pouvait plus tenir, et il nous a dit, moi dès qu'il a le concours, ça y est, je le prends. Et ça fait qu'il s'est installé à Lézignan.
Voilà. Et il est devenu partenaire par la suite, ou il est...
Le gars qui le lui a vendu faisait un certain chiffre, l'année après à tous les deux, ils ont doublé le chiffre. Il a revendu encore la moitié de cette part à un ami à lui qui était à de Lézignan, qu'il prenait lui quand il allait en deuxième année, il était en première année à Toulouse. Ça fait qu'ils se sont associés à deux, et puis maintenant il vient de rentrer depuis 2 ans ou 3 une autre fille. Ils sont 3. Trois associés ils sont. Non, lui il marche bien, ils ont un gros cabinet, ils ont. Et puis il est fait pour ça, quoi. Il est très manuel et tout. Puis alors il est patient parce qu'il a affaire à beaucoup de personnes âgées, il est très très patient. Et très compétent, je pense, parce que tous les gens qu'on rencontre nous disent c'est un plaisir et fait pas mal, surtout. Bon.
Il vous soigne, vous aussi?
Oui, le moins possible. Il faut prier pour qu'il vienne. Ma femme lui vient, il faut que tu m'occupes les ongles, j'ai encore ici, là-bas. Oui, allez, je vais venir. Et alors il vient. En principe, il vient tous les lundis parce qu'il s'occupe du rugby et tous les lundis, il vient manger à la maison le soir. Et alors il porte la valise et il nous soigne. Voilà la famille.
C'est une belle famille.
Alors j'ai deux petits-enfants avec le pédicure, une fille qui vient de rentrer en 6e et le petit il a 6 ans. Et mon autre fils a 2 filles, une qui a 6 ans et une qui va faire 2 ans.
Mm-hmm.
Voilà.
Mais vous êtes comblés alors.
Alors ils sont tous les deux avec vivre en plus, ils sont là où je suis, quoi. Je les vois tous les jours ou presque, quoi. Alors, la fille de la femme de l'aîné est dans le GAEC, on a monté un GAEC, un groupement agricole d'exploitation commune, et l'autre, la femme de Bernard, du pédicure aussi, est rentrée dans le GAEC. Elle a acheté des terres et ça fait qu'ils travaillent en société, quoi. Tous les trois. Voilà, et moi j'ai fait du bénévolat économique. Vous savez ce que c'est ça? Bénévolat économique, c'est travailler et pas être payé. Voilà.
Et vous pouvez même pas en mettre en grève,
parce que... Ah non, non. Oui, papa a fait ici, papa a fait là-bas. Papa, hier matin, il est parti faire du jus, il s'est levé à 5h du matin, il a terminé à 6h du soir. Je suis monté à Cuisa faire du jus de pomme, et il fallait qu'à 7h du matin, je sois là-haut. Et voilà. Là, maintenant, je vais à la vente, à 2h, il faudrait que je sois là-bas.
Ouais.
Je vais vendre des pommes. Je vais vendre des pommes. Oui. Je vais vendre des pommes là-bas. Voilà. Bon, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte?
Mais parlez-moi un peu de vos parents et de vos grands-parents. Vous avez parlé de votre papa, là, le côté triste, mais
oui.
Qu'est-ce que vous avez votre papa
Mon père était un homme extraordinaire, une très grande culture. Il a eu le bac en 1914, ce qui était excessivement rare. J'ai des cahiers de lui, là, c'est un monument de le voir. Il était toujours second parce qu'il y avait un gars qui était vraiment supérieur à lui. Et mon père voulait faire vétérinaire. Mm-hmm. Bon, il est parti en 14, il a été prisonnier. Il a fait 2 ans de guerre, 2 ans prisonnier. Et quand il est arrivé, les études, il avait passé 4 ans dehors. Il n'a pas voulu continuer et son père lui a dit, bon, reste à la propriété. Il est resté à la propriété, voilà. Mais après, mon père,
il a... Le bac en 14, vous avez raison de dire, c'est quelque chose.
Hein. Attention, hein. Donc il y avait les deux parties, et puis il y avait la première et la deuxième partie. Puis là, quand moi c'est cahier et tout que j'ai de lui, puis alors il voulait citer du Corneille, mon père du Racine, il voulait citer. Il avait une mémoire, comme tous les gens de mon âge. Il se rappelait des trucs de l'école, et puis de là, il partait en voiture, il ne savait plus où il avait mis la voiture. Mais il avait une très grande culture, quoi. Et ma mère, elle avait été jusqu'au bac, je crois. Ma mère, oui. Mm-hmm. Ah, mais ce que je regrette le plus, je crois que c'est ma grand-mère.
Ah oui. Laquelle? Maternelle ou paternelle?
Maternelle, je ne l'ai pas connue. Je n'ai pas connu mon grand-père paternel et ni ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère maternelle est morte quand mon père avait 2 ans. Il a été élevé par une tante, mon père. Et mon grand-père est mort aussi. Moi, j'étais pas né. Il est mort peu de temps après, mon grand-père aussi. Fait que je ne les ai pas connus. Et je n'ai pas connu mon grand-père maternelle, je n'ai connu que ma grand-mère, qui a vécu jusqu'à l'âge de 92 ans.
Oui, alors elle, vous l'avez bien connue.
Je l'ai bien connue. Et alors, la cuisine et tout, oh, c'était une femme exceptionnelle. Et elle ne parlait qu'occitan.
Ah oui, elle ne parlait qu'occitan.
Qu'occitan, oui. Tout en patois. Tout le patois que j'ai appris, je l'ai appris avec elle. Au départ, quoi. Ah, ah oui. Elle parlait qu'occitan, ma grand-mère.
Elle parlait français quand même.
Oui.
En français,
oui.
C'est un problème. Mais oh, naturellement.
Elle parlait français, mais souvent elle avait des expressions patoises et elle parlait souvent patois. Mm. Souvent, très souvent. Même au petit, elle parlait patois. Mm. Quand elle les tenait, les petits là, t'es bon, Bresca, elle lui disait. Mm. Bresca, vous savez ce que ça veut dire? Je vais te bercer. Mm. Oui, non, ma grand-mère me parlait beaucoup, beaucoup patois. Mes parents non, mais ma grand-mère oui.
Et vos parents pas du tout ou pas du tout?
Non, comme moi quoi. Bon, ils parlaient français, mais en fait, ils avaient, si quelqu'un parlait patois ou s'il fallait parler patois,
aucun problème.
Ils s'en débrouillaient quoi. Il n'y avait pas de problème, oui. Comme tous les gens de cette époque-là quoi.
Et l'autre, le grand-père, non, celui qui était. Il y en a un qui était. Que vous avez connu, non? Des grands-pères?
Non, aucun.
Aucun, excusez-moi, je me suis
aucun.
Je croyais
aucun.
Qu'il y avait. Donc aucun. Vous avez simplement connu le grand-mère alors?
Oui, j'ai connu que ma grand-mère. Ah. Ma grand-mère maternelle. Mon grand-père au départ ici, il était, on appelait ça Zenger à l'époque, c'était comme un jeu, qu'est-ce que je vous dirais moi, il réparait les machines à sulfater, il soudait les pots à l'époque au feu, ils y mettaient de l'étain dessus, on ne les remplaçait pas comme ça, il arrangeait les machines à sulfater, enfin tout ce qui avait, tout le petit matériel de la vigne quoi, ça existait, il plaçait les chenons, les trucs comme ça, vous voyez, ça c'était, ferblanti on appelait ça à l'époque, mon grand-père faisait ça.
Et votre grand-mère, elle avait fait des études, celle qui
non,
parlait non. Pas toi
non,
tout
non,
le temps?
Non, je pense pas, non. Ils étaient 7 dans leur famille. Ouais. Enfin, il y en a un qui est sorti quand même pharmacien de cette famille.
Et votre père a eu beaucoup de mérite de faire
des... Ah ouais, mon père, non, puis il était lettré, mon père. Parce que c'était pas connu, ils apprenaient beaucoup par cœur et tout, ils savaient beaucoup de choses. On a eu une embrouille un jour avec un gars, une imbécilité, quoi. Un type qui... Et puis mon père était d'une honnêteté scrupuleuse, comme ces gens de l'époque, il ne fallait pas passer à côté, et on ne triche pas, on n'acceptait pas n'importe quoi, c'était des gens d'une droiture, mon père était d'une droiture exceptionnelle, c'était un homme très droit. Ce qui était à lui était à lui, ce qui n'était pas à lui, il allait le ramener là où c'était, il pouvait le trouver sans prendre dans la rue, il allait le porter là, qu'il fallait le porter. Aujourd'hui on le met la poche, mais lui ça, c'est pour vous donner cet état d'esprit qu'il avait mon père. Et un jour j'ai eu une embrouille pour la chasse avec un gars avec qui j'étais très bien. Tout est bien avec lui, et alors on s'est disputé, et moi j'ai amené mon père parce que c'est une famille avec qui on avait de bonnes relations, et alors cette personne s'est permis un peu de critiquer mon père, je sais pas, un peu vertement, et mon père lui a répondu: ma moralité se passe de votre label. Ça super, ma moralité se passe de votre label.
C'est bien.
C'était une belle expression, je trouve. Bien. Surtout que ça correspondait vraiment à ce qu'il était. Quoi. Voilà. Moi, après, si vous voulez, j'arrive avec mes parents, bon, j'ai eu des histoires avec des filles, et mon père, et mes parents, ça ne leur plaisait pas trop. J'ai jamais eu un contact vraiment intime avec mon père, ni avec ma mère, vous voyez. Non, jamais.
Qui est pas trop.
Non, non. Moi, bon, je faisais mon boulot, j'allais travailler, bon, on discutait boulot avec mon père, j'ai jamais eu de problème, on travaillait ensemble, aucun problème. Mais après, si vous voulez, en dehors de tout ça, c'était quand même, c'était pas comme moi j'ai l'impression que je suis avec mes fils, où on discute de tout, de n'importe quoi, c'est pas du tout...
Il y avait beaucoup plus de tabous, d'interdits, non?
Oui, peut-être aussi, bon, j'ai posé une femme, ça ne leur plaisait pas trop au départ, tout ça, bon, il y avait tout un tas de salamalais qui voulaient toujours vous diriger, quoi, même à 20 ans encore, ils m'ont dit, il faut que tu fasses ceci ou cela, fais en dehors du boulot, quoi, mais... j'ai jamais eu vraiment. Je les ai bien aimés, mes parents, c'est pas un problème, hein, mais j'ai jamais eu cette liaison, surtout père-fils. Quoi. Il y avait toujours un peu de. Je dis pas de distance, parce que mon père n'était pas quand même quelqu'un qui était abordable, mais j'ai jamais eu ce lien qu'il y a souvent entre le père et le fils. Quoi. Vraiment un lien. Je sais pas, moi.
Et que vous avez eu avec vos enfants, vous avez
que je pense j'ai avec mes enfants. On discute de n'importe quoi, mes filles, tout ça. Bon, mon père, non, ça n'a jamais été un grand sportif. Moi, j'étais sportif, il ne voulait pas que je joue au rugby. Moi, j'allais jouer à Lézignan, il ne le savait pas, il m'engueulait. Des trucs comme ça, vous voyez, par exemple, bon. Et après, un jour, je jouais contre. J'étais en première à Lézignan, avec la grande équipe, on jouait contre Carcassonne. Et alors, le car de Carcassonne s'était arrêté ici à Douzens, et à l'époque il n'y avait pas les communications qu'il y a aujourd'hui. Et ils ont pris mon père, vous allez à Lézignan, je viens avec vous. Il est parti avec les joueurs de Carcassonne. Et il est rentré au stade sans payer, bon, ça c'est pas une affaire. Et puis alors, il s'est mis dans les tribunes, et il s'est retrouvé avec tous les joueurs de Carcassonne, parce qu'il y avait un match avant. Il leur avait dit aux joueurs de Carcassonne que je jouais arrière. Et alors vous voyez pas que l'arrière de l'équipe réserve de Lézignan c'était un noir, et alors à mon père lui disait: c'est votre fils qui joue arrière. C'était un noir qui joue arrière, un garçon gentil d'ailleurs, bien, mais alors lui leur avait dit que je joue arrière. Alors les autres, quand ils ont dit que c'était un noir, ils lui demandaient si c'était moi le fils. Bon, chef, vous pouvez
me libérer. C'est moi de vous avoir.
Je vous ai raconté pas mal de choses.
Oui, c'est bien, on a bien parlé. Je vous remercie. C'est...